bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Bonjour, soyez les bienvenus dans cette bande originale. Cette semaine, nous vous proposons une sélection de nos meilleures émissions, en compagnie évidemment de la bande au grand complet. Et pour nous accompagner ce matin, un écrivain qui marche et qui cartonne, l'écrivain marcheur, Sylvain Tesson. Continuons. Bienvenue, Sylvain. Bienvenue.
Merci.
On est ravis. Bonjour. On est ravis en ce début de semaine de vous accueillir. Vous avez.
On est mardi quand même.
On est mardi. C'est un début de semaine quand même le mardi, non?
Ouais, pour bah toi, oui. Mais nous, on était là hier.
Ouais, bah j'étais là aussi.
Ouais, mais ça s'est pas entendu.
Et demain, c'est vivement le week-end.
Ça... Oui, vraiment. Tu as bien raison.
Question concernant Sylvain Tesson. De quel instrument jouait-il lorsqu'il était enfant?
Trompette.
Violon.
Piano.
Non.
Saxophone.
Non.
Clarinette.
Flûte. C'est impossible à trouver.
Triangle.
Non.
Ah, du
la guimbarde.
Ukulélé.
De l'ocarina.
Si vous avez... Alors, c'est
le flûte de la trompette. Clarinette.
On est proche de la trompette et de la flûte.
Flûte à bec.
Non, mais alors plus.
Flûte de pan.
La plus étrange.
Saxophone. Plus
étrange. Du corps.
Corps.
Ah, ça commence
par corps de chasse.
Non. Cornemuse.
Oui, joli.
Oh.
Cornemuse.
Oui, cornemuse écossaise.
Ah, bah voilà.
Cornemuse écossaise.
T'as pas précisé,
le bagpipe. C'est le seul, ouais, le bagpipe, le Scottish bagpipe, c'est l'instrument qui se joue, qui se marie le mieux avec les éléments, quoi. Le monde extérieur, vous pouvez, même quand il y a de l'orage, on vous entend quand même, quoi. Mais en revanche, je me suis fâché
on
avec...
On vous entend même juste avant l'orage, non?
Oui, on croit que c'est vous le tonnerre. Ça avait été fait pour ça, d'ailleurs, je crois, la cornemuse écossaise, pour faire peur à l'ennemi. Tout ça est très organique, parce que c'est un instrument qui convoque à la fois le postillon, l'éructation, le crachat, ça vit, une cornemuse.
Comment vient l'idée surtout de s'y mettre? Parce que c'est pas tous les enfants, enfin à quel âge vous avez commencé à jouer?
Je devais avoir 15 ans, j'avais entendu un jour sonner de la cornemuse au bord d'un lac, en Savoie d'ailleurs, et j'avais trouvé que c'était l'instrument qui ressemblait le plus à ce qu'on pouvait, au chant du monde quoi. Alors je me suis dit, je vais apprendre ça. Parce que je veux pas faire de piano, ou jouer du triangle, ou du clavecin. D'ailleurs, ça se marie très mal, le clavecin et la cornemuse.
Enfin, la cornemuse se marie très mal avec n'importe quel
avec
instrument.
Avec tout.
Avec la vie en général.
Si, avec la musique aussi.
Il y a rarement un groupe qui dit guitare, basse, batterie, cornemuse.
C'est assez
rare.
C'est dommage d'ailleurs.
Même des groupes irlandais. C'est votre sœur qui a fait cet outing, vous concernant, votre sœur que l'on retrouve sur les chemins noirs, puisqu'elle vous avait rejoint également.
À la Châtre.
Exactement, cher Albert. Elle précise quand même que vous jouiez de la cornemuse en culotte tyrolienne. C'est-à-dire, il faut aussi s'habiller.
Non. Non, ça c'était parce que je suis...
Par coquetterie.
Non, c'est une forme de cosmopolitisme.
Oui, le message s'arrête là.
Oui, oui, bien sûr. Après, je m'habille plus du tout comme ça.
Ah, c'est dommage. Non.
Vous avez lu des livres d'histoire depuis.
Oui, voilà, je suis devenu classique.
À 7 ans, où Sylvain Tesson aimait-il dormir?
Dans les arbres.
Exactement.
Ouais.
Mais vous avez toujours aimé, de toute façon, le contact à la nature.
Oui, mais c'est-à-dire que quand on est un petit urbain, ce qui était mon cas, qui s'ennuie un peu, parce que je rêvais, moi, de la vie dans les bois, alors ben, je faisais ce que je pouvais, je faisais avec ce que je pouvais, et ce que j'avais, c'était quelques arbres, un jardin, quoi. Alors je dormais dans mon jardin, et puis parfois j'ai mis des hamacs dans les arbres.
Ce qui est une chance déjà d'avoir un jardin quand on est citadin.
Oui.
Et dormir dans un hamac à 7 ans, est-ce que vos parents toléraient ça? Parce qu'il y a un petit danger quand même de laisser un enfant seul la nuit dehors.
Ils avaient la paix.
Non, ils ont. Je pense qu'ils ont. Ils ont eu peur pour moi. Je leur ai donné beaucoup de raisons d'avoir peur. Je suis parti ensuite faire le tour du monde à bicyclette quand j'avais 20 ans. Mm. Je crois qu'ils ont été assez inquiets. Mais en même temps, c'est le rôle. Si les parents ne sont pas inquiets, si les enfants ne donnent pas des sujets d'inquiétude à leurs parents, c'est que
à quoi ça sert,
y a pas l'ordre des choses.
Oui, mais c'est ça.
Oui, faites des enfants.
Si la paix commence à régner à l'intérieur d'une famille,
quel ennui,
un échec.
Et il n'avait pas peur de ne plus vous voir redescendre comme dans le Baron Perché de Calvino?
Oui, ils avaient un peu cette peur-là, probablement, bien sûr, puisque moi, ce que j'aimais dans les arbres, c'était ce sentiment, ça, de tout d'un coup d'échapper à toute forme de loi.
Oui.
Et
une révolte,
oui. Oui, c'est une sorte de révolte douce, écologique, bio, et à la portée de qui sait grimper dans un arbre et installer un hamac, quoi. C'est très simple.
On rejoint le parcours sur ces chemins noirs. On va en reparler. Quel métier avait conseillé le directeur de l'école de Sylvain à son papa? Il avait dit votre fils devra être
garde-chasse.
Garde-chasse, ouais. Exactement. On reste dans la même.
Trois
même
points, les enfants, je vous mets une raclée.
Non, mais c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait l'orientation, les conseillers d'orientation. Ouais. Et moi, j'étais assez cancre, je lisais très peu, j'étais mauvais partout. Et du coup, bizarrement, un conseiller d'orientation considérait que quand on n'était pas à niveau scolaire, on allait devenir garde-chasse, qui pour moi, j'aurais beaucoup aimé en fait l'écouter.
Ouais.
Et malheureusement, on m'a demandé de me reprendre et de passer mon bac. Mais ça ne m'aurait pas du tout embêté de vivre une vie gardien de forêt, de réserve, ou enfin voilà, une vie dans les bois. Quoi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait après.
Braconnier aussi.
Non, parce que le garde-chasse, c'est précisément pour essayer d'attraper le braconnier. Oui.
Ça peut être, c'est la symétrie inverse.
C'est ça, voilà, j'aurais braconné les braconniers.
Un jour, sa maman découvre, maman dont vous parlez également beaucoup sur les chemins noirs, votre maman découvre une pellicule de photos dans la chambre, elle décide de faire développer cette pellicule et elle a failli faire une syncope en la récupérant. Pourquoi? Qu'a-t-elle découvert sur les photos?
Oh là là. Des photos d'elle.
C'est grave. Enfin, je veux dire,
des
syncope.
Animaux. Des animaux morts.
Ça rejoint l'inquiétude que peut avoir une maman pour son fils. Ah.
Des photos de vide.
Là où il était allé.
Alors, pas loin, ouais. Ouais, non, je vais prendre les photos. Ah, allez, non, parce que Daniel, après, il va croire que.
Ouais, je veux. Ouais,
il va croire que je
porte raison.
Non, je te laisse un point.
Non, c'est-à-dire des photos de vous au sommet de la Tour Eiffel.
Ah.
Ouais.
En train de passer de l'autre côté de la balustrade, quoi.
Non, bah, entre même pire que ça, on avait, j'avais pris une balançoire, une balançoire de jardin, quoi, ouais. Une escarpolette, comme on disait au XVIIIe siècle.
Exactement.
Et je l'avais installée au sommet de la Tour Eiffel avec un camarade. On l'avait mis sous la plateforme de télévision après avoir grimpé. C'est il y a très longtemps, donc il y a prescription. Tout ça est interdit, naturellement, et puis faut pas le faire.
Et dangereux, oui.
Oui, c'est dangereux.
Vous êtes tellement convaincu quand vous dites ça.
Non mais ne le dites pas sur ce ton-là, Sylvain. C'est évidemment que c'est dangereux, arrêtez.
C'est pas très dangereux dans la mesure où la Tour Eiffel est faite pour l'escalade. C'est une sorte d'échelle. Alors simplement, il ne faut pas rater un barreau. Et donc on avait mis la balançoire au sommet et puis on s'était amusé à se balancer. C'était un grand portique de 300 mètres.
Ouais.
Et on avait pris des photos. Ma mère avait vu, parce que c'était une époque où les photos ne circulaient pas comme ça. C'était encore des bobines. Et du coup, elle a vu ces photos et elle en avait conçu quelques craintes parce qu'elle trouvait que c'était dangereux. Mais du coup, ils ont eu un bon réflexe. Mes parents, ils m'ont acheté une corde. Mais je ne savais pas faire les nœuds de toute façon, donc ça ne servait à rien.
Il y a quand même cette attirance du vide, et on va en parler tout de suite, de cette attirance du vide, parce que c'est de là qu'est parti sur les chemins noirs, votre décision de partir sur la route. Le livre a 4 ans, c'est ça, 5 ans?
C'est ça.
C'est ça. Et on va revenir à ce qui s'est passé donc un an avant ce livre, l'accident dont vous êtes victime. Vous avez quoi exactement de cet accident aujourd'hui? On est en 2019, on est 5-6 ans après l'accident. Qu'est-ce que vous avez encore en mémoire?
Aucun. J'ai aucun souvenir dans la mesure où c'est un accident assez violent. Donc pour ça, la nature est bien faite. On tombe dans le coma, on se souvient de rien. Ensuite, je suis tombé par terre. C'était l'année 2014, c'est-à-dire c'était déjà assez développé. Le monde était déjà assez développé médicalement. Je ne suis pas tombé du sommet d'une yourte au XIIe siècle en Mongolie. Et du coup, au XXIe siècle, on est très bien soigné. Et on ne souffre pas à l'hôpital. Donc je n'ai aucun mauvais souvenir.
Non, vous ne pouvez pas dire, Sylvain, c'est pas possible. On ne peut pas tomber de 10-12 mètres de haut.
Du toit d'une maison à Chamonix, c'est ça,
ouais,
pour le contexte.
C'est ça.
Vous racontez dans le livre, et c'est parce que vous le racontez dans le livre que je me permets de vous poser ces questions. Vous dites quand même le corps brisé, fracassé, ouais. le crâne écrasé. Ouais. Vous parlez de votre visage qui interpelle les personnes que vous croisez pendant cette route, et vous parlez, et c'est ça.
Ça faisait peur aux chiens.
Le principe.
Oui, c'est drôle, ça, que les chiens aient peur.
Ça peut être pratique, ça.
Oui, oui, on a...
et ça attirait les araignées et autres.
J'avais l'impression, vous dites, ouais. Probablement était-je tellement noir, tellement mélancolique, parce que c'était une chute importante qui m'avait. J'ai eu l'impression de perdre ma jeunesse, de perdre ma force, puis d'avoir fait une énorme bêtise, parce que c'était une chute liée à une maladresse. Lié d'ailleurs à l'ivresse. Donc tout ça n'était pas du tout glorieux. J'étais pas tombé en train de faire de l'escalade ou en train de, je sais pas quoi, de rendre service à quelqu'un. Non, c'était une chute d'ivrogne. Alors j'étais dans des dispositions très noires. D'ailleurs, tout ce que vous m'avez, je ne savais pas, fait raconter sur mon enfance juste avant, semble mener à cette chute. Ouais. Parce que j'ai passé ma vie à essayer de fuir. Tout ça est très banal. Tout le monde essaye de fuir, tout le monde se retrouve dans un labyrinthe, tout le monde essaye de trouver les portes de sortie, les voies d'échappée. Mais moi, elle m'a mené à une chute une nuit. Voilà, j'ai essayé de m'en relever par la marche à pied.
Alors justement, à quel moment est-ce que c'était vraiment, comme vous le dites dans votre roman, une promesse que vous êtes faite de si je m'en sors, je traverserai la France à pied. Vous avez vraiment formulé cette promesse sur votre lit d'hôpital ?
Oui, je l'ai dit comme ça. Probablement parce que, comme j'avais beaucoup consacré ma vie auparavant, la vie que j'avais déjà vécue, je l'avais consacrée au voyage, et au voyage à pied, à cheval, à bicyclette, enfin au voyage dans la nature, aux grandes traversées continentales. Je faisais ça parfois
Loin de la France.
Loin de la France, parfois pendant des années. Je vivais dans vraiment la vie dans les bois, quoi. Celle que j'avais rêvée lorsque j'étais enfant, lorsque j'étais monté sur un arbre. Et après, je l'ai vécu avec des moyens d'adulte. J'avais compris, enfin j'ai compris, c'est pas très dur d'ailleurs de comprendre ça, c'est dans la... Voilà, ça, ce genre de choses, je peux les comprendre. J'avais compris que la marche à pied, la vie d'aventure, la vie dans les bois, vous donne une forme de liberté, quoi. C'est tout, c'est très simple. C'est le syndrome Tom Sawyer. C'est le syndrome Huckleberry Finn.
D'accord, enfin, mais c'est le syndrome avec... Vous dites d'ailleurs, vous partez en boitant et vous revenez en marchant. C'est une reconstruction aussi que vous avez cherché à faire.
Oui, c'est ça, c'est une thérapie. C'est-à-dire, je savais que la marche apportait ses bienfaits intérieurs, parce que je l'avais éprouvé plein de fois, alors que je n'étais même pas malade, mais je m'étais rendu compte combien la marche était bénéfique pour la libération de l'esprit. Enfin, tout ça, on le connaît très bien. Quand il vous manque un mot, vous faites les 100 pas. Non, maintenant, on regarde sur Wikipédia, mais autrefois, c'est ce qu'on faisait, quoi. On se levait, on faisait les 100 pas, et puis l'idée venait. Enfin, donc, il y a un rapport proportionnel presque mécanique, presque thermodynamique, entre la volonté de chercher quelque chose, de plonger en soi, de s'agiter l'esprit, et le fait de marcher. Tout ça est très connu.
Est-ce que vous écrivez debout ? Comme auteurs, non ?
Oui.
En cheminant ?
Non, mais parfois, les idées me sont venues, bien sûr, lorsque je marchais ou lorsque je courais. Et du coup, sachant qu'il y avait ces bénéfices physiques, moraux, intérieurs et mentaux, ben lorsque j'étais brisé sur mon lit d'hôpital, je me suis dit, je vais me rééduquer, comme disaient... Parce que les médecins parlent beaucoup de cette expression que moi, je croyais jusqu'alors réservée au commissaire politique de l'Union soviétique, la rééducation, mais enfin, ça marche aussi dans les hôpitaux. Quand vous êtes brisé, j'avais 26 fractures, je crois, en tout. Alors, c'est beaucoup, c'est trop, parce que le corps humain n'est pas du tout au point. Puis la médecine a beau être très bonne, elle est encore assez balbutiante, donc on ne sait pas très bien comment marche toute cette espèce de machine compliquée. Alors, du coup, je me suis dit, je vais marcher. Je vais partir sur les chemins.
Alors,
puis la marche va me remettre.
Partie du Mercantour direction le Cotentin. Peut-être que vous ne saviez pas exactement d'ailleurs dans à quel moment vous alliez rejoindre l'autre bout de la France. Est-ce que c'était le Finistère ? Est-ce que c'était la Normandie ? Vous alliez un peu au gré de cette carte. Alors là, on retrouve le géographe que vous êtes. Parce que j'imagine que vous êtes toujours géographe après vos études, apprenant la carte de l'IGN au 25 millième. Ça veut dire que 1 centimètre représente 250 mètres. Donc tous les chemins normalement sont représentés sur cette carte. Je dis bien normalement parce que vous avez beaucoup de panneaux avec défense d'entrée, propriété privée,
dernier avertissement,
dernier avis. C'est ça, le dernier avertissement.
Avant sommation, avant.
Ou alors le paysan du coin qui vous dit mais non, ce chemin il n'existe plus. Il y a même des chemins qui sont à accès aléatoire pour employer une formule de cette carte. Donc vous partez du Mercantour, la RPI niçois, et vous découvrez chaque caillou, chaque millimètre de terre comme un émerveillement.
Oui, bien sûr, parce que je venais moi de faire plusieurs mois d'hôpital, 4 mois en tout, après une année très difficile de récupération de mes forces. Donc le moindre pas pour moi était la conjuration. du malheur, ça a servi à ça, la marche aussi. Lorsque j'étais sur mon lit les premières semaines, j'étais pas tout... on me disait que c'était pas tout à fait certain que je pourrais reprendre la route. Et puis tout d'un coup, j'ai pu. Et alors à ce moment-là, j'ai été pris d'une espèce de frénésie, d'appétit de vie. Tout ça. Et je crois que tous les malades qui ont eu la chance un jour de triompher leur maladie ont connu ça, l'espèce d'appétit monstrueux. Or, j'étais doté d'une grande avidité de la vie, mais elle s'est décuplée. Et du coup, maintenant, d'ailleurs, parfois, je me fatigue moi-même. Je me dis qu'il faut que je me coupe la jambe pour arrêter. Quoi. Il n'y aura pas d'autre solution.
Mais sauf que marcher, vous pouvez très bien faire le GR20 et vous dire je vais me balader sur des routes, sur des sentiers de marcheurs. Balisé. Là, vous décidez de créer votre propre chemin. Et un chemin, et pour reprendre l'expression des chemins noirs, expression d'ailleurs où vous reconnaissez, il y a une double paternité cette expression.
René Frény.
Voilà. Sur les chemins noirs, chemin noir veut dire sans aucune vie à moins de 250 mètres. J'ai l'impression qu'il n'y a rien ni personne, pas d'électricité, surtout pas d'internet, pas de wifi, rien, des chemins et des territoires oubliés.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, mon itinéraire correspondait à une cartographie qui venait d'être élaborée par le gouvernement. Oui. C'était il y a très longtemps. Ils sont très oubliés, c'est dans les livres d'histoire. C'est un monsieur qui s'appelait Manuel Valls, je crois. Enfin, on était encore dans la 5e République à l'époque, mais vous rendez compte, moi je vous parle
le maire de Barcelone.
C'est la cata, oui, c'est ça.
L'ancien maire de Barcelone.
Tout ça est très vieux. Mais enfin bref, il sentait tout de même, ce gouvernement, qu'il y avait un problème avec la campagne. Je ne sais pas si vous avez lu la presse ces dernières semaines, mais il y a un problème avec ce qu'on appelle dans les instances gouvernementales, l'hyper-ruralité.
C'est une malédiction pour les politiques. Enfin, en tout cas, c'est perçu comme tel.
C'est ça. Ouais. C'est-à-dire, c'est ce que... Enfin, on va pas gloser là-dessus, parce que ça a été tellement fait, et puis le constat, ça y est, il est établi.
Vous le faites dans le livre aussi, parce que, allons-y, vous... évidemment, ce sont pas les rêveries d'un promeneur solitaire, mais pas loin. Vous écrivez sur ce que vous découvrez, sur la beauté du moindre vol d'oiseau, l'arbre, le ruisseau, le chemin, le caillou, avec cet appétit de marcheur, mais vous analysez aussi, et vous mettez une petite claque quand même à cette Europe que vous estimez, on va dire quoi, responsable de cette urbanisation, responsable de cet aménagement du territoire, responsable de l'industrialisation et de
la désertification des campagnes.
Oui, de tuer même les paysans, les agriculteurs en les poussant à surproduire.
Mais c'est ça. En fait, la carte que le gouvernement avait demandé à un rapport d'experts d'élaborer était une carte qui montrait tous les pays qu'on appelle aujourd'hui la France périphérique, la France oubliée, la France qui est tombée dans le trou, que plus personne n'a jamais entendu. Enfin, on connaît tout ça, puisque l'actualité, tout d'un coup, s'est réveillée et a braqué le projecteur sur ces gens qui ne sont jamais éclairés et a donné le porte-voix à toute cette France qu'on n'entend pas. Alors tout d'un coup, on la voit et on s'aperçoit qu'elle n'était pas là et qu'elle existe puisqu'elle n'existait pas. Et ce rapport de 2014 ou de 2015 montrait déjà qu'il y avait ce problème, ce trou noir, ces espaces sidéraux. Et il y avait une carte qui était dessinée qui, grosso modo, allait du Mercantour jusqu'aux Ardennes en prenant en écharpe le Massif central et en coiffant le sud des Alpes. Enfin voilà, on identifiait ces zones-là comme des zones qui n'étaient plus aidées par l'État, par le centre, qui était hors de toute espèce de considération. Enfin, tous les problèmes qu'aujourd'hui on connaît très bien. Et moi, comme si vous me posez la question sur les chemins noirs, comme je sortais de mon propre tunnel, moi-même, de ma propre
noirceur,
et que je voulais marcher, je me suis dit, je vais me servir de cet itinéraire d'un pays oublié, d'un pays qui semble boiteux. Et je vais faire correspondre ma propre boiterie à cette détresse géographique. Vous voyez, ça peut sembler
c'était
un peu compliqué.
C'était pas aussi une manière de ne croiser personne, de pas,
également,
de pas être vu aussi, parce que vous parlez beaucoup de votre visage. Finalement, c'est de fuir aussi les visages des autres pour se protéger, ou vous allez chercher des paysages où il n'y a personne.
Un peu. Moi, je voulais me dissimuler, je voulais essayer de me reconstruire par la marche, mais sans trop voir de monde. Mmh. D'abord, je suis pas un être naturellement très sociable. Alors en plus là, quand je sortais de ce tunnel, j'avais envie de solitude. Et cette carte de l'hyper-ruralité me donnait l'itinéraire possible pour essayer de me dissimuler. Et j'avais les cartes au 25 millième dont vous venez de parler qui me donnaient la clé. Puisque c'est l'outil de la carte au trésor. Vous pouvez vous dissimuler dans les chemins les plus petits et en voyant votre territoire du Mercantour au Cotentin, j'avais la possibilité d'utiliser les chemins de traverse dans un territoire hyper rural pour cacher mon corps abîmé et pour essayer de guérir, de consoler mon esprit très noir. Tout ça n'est pas très drôle.
Non, mais c'est la liberté suprême pour vous, parce que finalement, vous le dites, disparaître, c'est encore la dernière liberté qui nous reste. Fuir, c'est commander. Vivre, c'est vivre de façon dissimulée. Donc vous accédez aussi, parce que ça va plus loin que la rémission, le salut par le mouvement, en fait, qui est initialement la démarche du bouquin. C'est aller plus loin, c'est se dire que finalement, être loin de tout dans ces zones qui sont considérer, c'est aussi être en mesure, dans une société complexe, de se retrouver.
Oui, je crois que c'est ça les chemins noirs. C'est-à-dire que lorsque vous vous opposez à un système qui vous dépasse, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous voulez l'abattre, et dans ce cas-là, vous rentrez dans la rébellion, la résistance, ou je ne sais pas quoi, ou la révolte. Mais moi, ça n'est pas ma nature. Je crois que c'est beaucoup lié à des choix de personnalité. Moi, ma nature est plutôt l'esquive, le chemin de traverse, l'issue de secours. Je pars parce que j'aime le mouvement. Et du coup, ça m'a beaucoup amusé, ça m'a passionné même de voir que dans le territoire, dans un territoire réel qui s'appelle le pays dans lequel on vit, grâce à la carte qui est la représentation de ce territoire. On peut, pour peu qu'on sache lire la carte au 25 millième, on peut trouver les portes dérobées, les escaliers de secours. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de se révolter, de mettre le feu, de prendre une masse pour aller abattre le mur de la citadelle. Non, on part et on trouve la liberté. Le silence, les chouettes, les haies. Les rivières.
Quand il y en a encore, parce que vous déplorez souvent le remembrement, cet aménagement du territoire. Il y a une phrase qui est formidable, à un moment où vous dites c'est un pays où le service à la personne a remplacé la vieille amitié. C'est quand même terrible comme constat.
Oui, bien sûr, parce que l'intention, c'est ce que je viens de vous décrire, et ensuite quand on le vit, mais tout d'un coup on a ce qu'on imaginait, le rêve prend corps, et malheureusement il ressemble rarement à ce que vous pensiez qu'il allait être. Et j'ai voyagé. J'ai traîné cette carcasse, ma propre carcasse, dans ce pays, et je me suis aperçu que tout ce que j'imaginais, un peu bêtement, un peu de manière un peu adolescente, un peu romantiquement, n'existait plus vraiment. C'est-à-dire que les 50 années, je sais pas, on va pas vous faire une histoire ici de l'aménagement du territoire, mais grosso modo, depuis l'après-guerre, la massification, l'urbanisation, la politique européenne d'intensification agricole, l'autorisation de construire des maisons individuelles sur ce qu'on appelait la surface agricole utilisable, les AC, les UP, tout ce qu'on connaît, tout ce qui a dévisagé le paysage français.
Les autoroutes, les TGV.
Les autoroutes, les TGV, les rocades, toutes ces choses-là, les supermarchés.
Les ronds-points.
Les ronds-points. Exactement, les ronds-points, oui, la décentralisation, enfin, ce qui a couvert le pays, ce qui a donné au pays...
Vous dites même dans le livre, les routes qui vont des pavillons particuliers au supermarché, c'est-à-dire qu'il fallait accélérer la consommation aussi.
Mais bien sûr, et ce qui crée une sorte de désubstantialisation de la vie dans les campagnes, dont aujourd'hui nous entendons dans les villes les échos, les appels, qui sont finalement une forme d'appel au secours, parfois. Moi, je les ai vus vraiment, si je puis dire, au ras de la route. Et avec beaucoup de souffrance, d'ailleurs, parce que esthétiquement, on voit le ravage. Sauf que la carte au 25 millième vous permet justement de trouver la traverse, l'échappée, qui va vous permettre de sinuer pour échapper à ces zones de laideur.
Quelquefois où il n'y a pas le choix, vous êtes obligé d'emprunter des voies goudronnées, ça vous redonne encore une volonté supplémentaire de retrouver les chemins noirs.
Exactement.
C'est un rappel à chaque fois.
C'est ça, c'est la fuite dans l'escalier de service.
Enfin, vous l'avez compris, hein, on l'a tous aimé, évidemment, et le relire et le redécouvrir, c'est une leçon de vie. On peut ne pas être forcément d'accord non plus avec tout ce que vous tirez comme enseignement, mais on ne peut avoir qu'une envie, c'est aussi chausser ses pompes et aller marcher.
Et bivouaquer.
et bivouaquer. Maréchal Ganache, c'est un succès annoncé, la publication en poche de ce livre.
On va en parler, Nagui, mais quand JNB, notre rédacteur chef, m'a dit qu'il avait invité Sylvain Tesson pour son livre « Sur les chemins noirs », j'ai vu dans ce titre comme un sinistre présage.
Ah bon.
Eh bien, je me trompais. Sur les chemins noirs est le contraire d'un livre sinistre. C'est un bouquin passionnant. Certes, logiquement, j'aurais dû me méfier de ces chemins noirs qui, à l'origine, on a évoqué René Frénier tout à l'heure, désignaient les routes prises par un conscrit réfractaire, bref, par un salopard de déserteur, poursuivi par l'autorité militaire. Oui, j'aurais pu me méfier. Mais quant à la page 23, j'ai lu cette phrase... Voilà que revenait le temps des bivouacs, j'ai compris que j'avais affaire à un écrivain qui en a dans le froc. Ce que confirme d'ailleurs le bandeau que j'ai là, marche ou crève, ouais. Une marche qui en plus passe par la Châtre. Je l'ai dit tout à l'heure.
C'est vrai, c'est vrai.
Albert Algou l'a dit tout à l'heure, page 132, vous avez retrouvé votre sœur, cher monsieur Tesson.
Daphné.
Alors, en vous suivant, dans cette... vous les connaissez ?
Ouais. Mais c'est dans le livre,
d'accord.
C'est marqué.
Page 132.
Tu as passé une sale soirée, la pauvre.
Oui, la pauvre, elle a eu le bourdon.
Ouais. Mais oui, mais après, ça a été mieux. En vous suivant dans cette expérience de l'évitement qui vous ferait dire aujourd'hui à Napoléon, Leïla a cité la phrase tout à l'heure, « Sire, fuir, c'est commander », je me suis souvenu que moi aussi, jadis, j'avais été un homme en fuite. Je sais, vous allez me dire je l'attendais à cela. C'était en 1954, au Tonkin. Livré aux sangsues, grosses comme des mortaux, sur les ordres du cruel général Boboun, alors que je croupissais dans une cage en bambou plongée dans le Mékong, je m'étais dit, si je m'en sors, je traverse l'Indo à pied.
Oui.
J'ai pas eu le temps de vous raconter mon itinéraire incognito.
Non, on n'a pas le temps.
Oui, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'épuisé par des jours de marche, je me suis assoupi sur un amas de terre. Réveillé par une douleur atroce, je réalisais trop tard, je m'étais assis sur un nid de fourmis carnivores qui m'avait ravagé le fondement. Depuis, je ne peux rester assis plus de 3 minutes d'affilée.
Voilà une bonne nouvelle.
Merci Albert Alou.
France Inter, Nagui, la bande originale.
Dans votre livre, vous employez une expression sur le livre sur les chemins noirs, une expression sur les 30 glorieuses, et vous dites là le début de notre 21e siècle serait plutôt les 20 cliqueuses. C'est sur Internet, la vanne que vous faites sur Internet. Vous aviez-vous des moyens de communication modernes avec vous ? Vous en parlez pas du tout dans le livre. Il n'y a pas de téléphone portable. On ne sait pas si vous allez sur Internet, si vous lisez des mails. On sait que des amis vous rejoignent. On ne sait pas comment vous donnez rendez-vous, comment vous retrouvez. Mais est-ce qu'il y avait quand même quelque chose de technologique avec vous ?
Non, et je dois dire que, enfin, c'est pas que je fais pas une critique, parce que de toute façon, c'est comme combattre un mammouth, mais simplement, j'essaie de montrer combien la marche l'expérience qui vit aux antipodes de la vie virtuelle, quoi. Enfin, c'est très banal, mais c'est tellement, enfin, on vit. Une telle mutation qui est en train de... On sait tout ça, qui est en train complètement de nous transformer, enfin, mais même intérieurement et psychiquement, quoi. Et la possibilité d'échapper à ce dispositif de soumission de l'homme et de l'être aux machines et aux écrans, c'est, entre autres, de prendre la poudre d'escampette et de marcher dans les bois. C'est très simple.
Et le temps dure 2 fois plus longtemps, 3 fois plus longtemps.
Oui. Enfin, de toute façon, il se passe des choses. Tout d'un coup, il se passe des choses. Et il se passe des choses organiques. Tout à coup, vous avez froid. Tout d'un coup, vous vous asseyez sur une fourmilière.
Ça fait mal.
Oui, je sais que ça fait mal. Tout à coup, vous avez chaud. Tout à coup, vous dormez dans les bois. Vous êtes réveillé par le hurlement des bêtes.
Notre vie, même notre vie de citadin, on passe d'un point A à un point B sans se rendre compte de ce qu'il y a entre les deux.
Oui, souterrainement, parfois. Ouais. Oui, bien sûr. Mais en fait, tout l'intérêt de la marche, et de vous donner, avec des moyens très simples, puisque c'est même notre nature propre d'humain bipède, c'est notre propre, c'est de marcher, et de vous donner un extraordinaire déploiement d'expériences organiques. C'est simple de dire ça, c'est simple, mais on a l'impression qu'on l'a oublié. Et alors, moi, je n'essaie pas de casser avec un marteau les écrans qui nous entourent, bien que je ne les aime pas, je dis simplement... que si on veut renouer, retrouver un lien avec la vie animale, enfin avec notre vie organique, il n'y a qu'à marcher, c'est très simple.
Et vous ne pensez pas que ça marche, mauvais jeu de mots, pardon, également en ville ?
Si, peut-être, oui, bien sûr, il y a les le flâneur des deux rives. Oui.
On peut traverser Paris, par exemple, par les passages, en évitant le maximum de circulation automobile, c'est possible.
Mais il y a une forme de...
C'est amusant à faire.
Mais de marcher dans la ville, on entend des voix, on croise des personnes, on se rend compte de certains quartiers, et puis il y a quand même des beautés architecturales formidables, en tout cas pour ce qui est de Paris.
Mathilde Inac avait fait ça avec les boulevards des Maréchaux. Il avait écrit un livre, il avait fait à pied le tour de Paris par les boulevards des Maréchaux, et le livre était vraiment formidable, ça m'a fait penser dans un milieu très différent.
Oui, mais bien sûr, mais il ne s'agit pas d'ailleurs de faire une hiérarchie des écosystèmes et de prétendre que la traversée de la Beauce par les champs de blé OGM...
Il y a quand même des théories économiques et que vous employez qui sont très précises dans le livre, sur le flux, sur le transport, sur la consommation, sur le pourquoi aller chercher un ananas une mangue
au
Brésil. C'est la mangue au Brésil. Pourquoi aller chercher la mangue au Brésil alors qu'il y a des groseilles dans les
les bois. Enfin, non, mais ce que je veux dire, c'est que il ne s'agit pas d'élaborer une espèce comme ça de tableau hiérarchique des écosystèmes qui correspondraient vraiment à la reconstruction intérieure et spirituelle, donc ce serait tout à fait vain de faire ça, mais simplement, on a des natures, c'est comme les goûts amoureux ou les goûts culinaires d'ailleurs, il y a des gens qui aiment les aubergines et pas les salsifis, il y a des gens qui aiment le calcaire et pas le granit, ou qui se sentent mieux dans l'humidité des marais du Cotentin plutôt que dans la sécheresse des prairies d'Ardèche, c'est tout. C'est des goûts. On tombe amoureux d'ailleurs d'un lieu géographique comme d'une femme, quoi. En plus,
on sent des vibrations aussi.
Oui, et puis ça dure plus longtemps avec la géologie.
Ça dépend, ça, Sylvain Tesson. En revanche, il y a aussi quelque chose qui préside à votre démarche, c'est une forme d'ascèse. C'est-à-dire que vous voyagez sur le dos.
Non, mais il ne peut plus.
En tout cas, vous pourriez vous arrêter dans des hôtels hyper confortables.
Il y a eu quelques hôtels, j'ai l'impression.
Quelques-uns. Mais vous choisissez de vivre aussi assez chichement, finalement, même si vous rêviez dans votre vie d'avant de voyager comme François Fillon et de vous dire qu'on s'arrête dans un bar pour boire un coup alors que vous buvez quoi, un bouillon de légumes, un viandox, un sirop d'orgeat quand ça va bien.
J'ai beaucoup donné à la cause alcoolique avant.
C'est ça.
Et vous n'avez
pas. Même dans la façon de se nourrir, il y a une forme de légèreté qui doit accompagner aussi le mouvement du corps. On sent que vous n'êtes pas là pour profiter des spécialités régionales.
Oui, c'est vrai. Il y a un sentiment indéniable de liberté avec la légèreté.
Ouais.
Bien sûr, le même dégraissage absolu du corps, des bagages. En fait, c'est contre l'encombrement.
Ouais.
Et vous dites d'ailleurs qu'en marchant, vous maigrissez, mais vous laissez un peu de soi sur la route au fur et à mesure, en maigrissant.
Sûr. On maigrit indéniablement quand on marche. C'est assez long. C'est assez lent, mais c'est très efficace.
C'est très efficace.
Et vous traversez la France à pied, vous pouvez arrêter de dire les fiches régime de L.
D'ailleurs, c'est un de vos camarades qui dit pour lutter contre l'obésité, on devrait obliger tous les enfants à traverser la France.
Oui, tous les enfants et tous les présidents aussi.
Et dans le Massif central, vous ne parlez pas du Saint-Nectaire.
Non.
Non, c'est vrai.
Pourquoi tu veux
c'est une vanne.
Non, c'est pas une vanne. C'est parce que Leïla, c'est amusant quand elle dit que vous avez négligé les spécialités régionales.
En tout cas, c'est pas négligé, mais c'est que c'est pas l'entreprise. Et parce que justement, on parle de cette notion de fuite, de liberté, qui va avec cette idée de pas être là, assujetti aux délices régionaux.
Les délices régionaux, c'est la culture, c'est l'homme. Moi, je ne dis pas que je fais une entreprise anti-humaniste, parce que je ne suis pas un misanthrope, mais simplement, à ce moment-là de ma vie, dans la noirceur dans laquelle j'étais plongé, je ne voulais pas tellement me plonger dans la culture des hommes. Ce que je voulais, c'était rencontrer des bêtes, voir des paysages et essayer de sinuer entre l'archipel de la construction humaine. Alors tout ça, évidemment, ça vous arrache au plateau de fromage.
Oui. Et forcément, quand on connaît cette expérience-là, on a envie de reproduire, non ? À nouveau, de reproduire cette expérience.
Une fois rentré.
Ouais.
Oui, une fois que vous avez compris que la marche vous a rééduqué, relevé, reconstruit, on n'a pas envie de s'arrêter. C'est la raison pour laquelle je m'étais dit, je vais aller jusqu'au Cotentin, parce que là-bas, il y a une falaise.
Il fallait bien que ça s'arrête.
C'est la géographie qui m'imposera le demi-tour.
On continue de parler de ce livre sur les chemins noirs, signé Sylvain Tesson, publié chez Folio. Voici Agnès Hurcel d'abord.
Bonjour, vous allez bien ?
Mais très bien, et toi ?
Moi ça va super, vous savez pourquoi ?
T'es ravissante en tout cas.
Oh, merci, c'est gentil. Calme-toi. Parce que je suis persuadée que j'ai un zizi. Mais ouais. Non mais pourquoi ? Parce qu'on m'a toujours dit que j'en avais un en fait. C'est-à-dire que j'ai été élevée par des parents très marrants, sans tabou, qui étaient tout le temps à poil d'ailleurs, par exemple à la maison. Oui, bah on connaît tous ce genre de famille. Hein.
Cet oncle
un peu chelou.
Non.
Moi
non.
C'est mon père. Et ben n'empêche que mes parents m'ont éduqué exactement comme ils ont éduqué mon frère, sans différencier, sans genrer. C'est-à-dire qu'on avait tous les deux des zizi, personne ne devait y toucher à part nous. On devait tous les deux faire hyper gaffe aux dingues dans la rue, dans le métro, à la radio, dans les halls d'immeubles, partout. On n'était jamais obligé d'être poli avec les adultes. Par exemple, si on n'avait pas envie de faire un bisou, ben on le faisait pas. En revanche, il fallait être très poli. Il fallait dire non merci madame ou non merci monsieur. C'est-à-dire, t'as l'air d'un gros dégueu et mes parents m'ont dit de me méfier des moustachus dans ton genre. Mais merci de me tenir la porte, monsieur. Et on avait le droit aussi, et c'est là que c'est original, de ressentir des papillons dans le ventre ou ailleurs. Ça s'appelait du désir et c'était hyper ok. Et on avait le droit même de se faire du bien et de se faire plaisir, juste pas en public. Je le précise parce que c'est vrai que mon frère, dès ses 2 ans, il y a des tonnes et des tonnes d'enfants au monde, et c'est encore un tabou, et je ne comprends pas pourquoi c'est encore un tabou, se faisait du bien partout, tout le temps, sans savoir évidemment ce qu'il faisait, le pauvre. Aujourd'hui, il s'est calmé. C'est un adulte, il fait 1m85.
Il est en prison.
Évidemment, c'est des comportements qui sont ok à 24 mois, plus du tout à 24 ans. Hein. Je sais pas si quelqu'un m'écoute, mais je Allez le dis. Là. Sur Tinder, d'ailleurs, vaut beaucoup mieux mettre aujourd'hui que t'aimes la box style, tes neveux, les petits chats et le scooter électrique, hein, comme tous les gars de la station F, plutôt que de dire que tu te masturbes en public depuis 98.
Oui,
merci,
sûr.
Personne n'est dupe. J'aimerais d'ailleurs voir le compte Tinder de Louis C.K. Bref, aucun rapport. Bref, moi j'ai eu de la chance. Voilà. On m'a parlé de sexualité, de désir, de consentement, d'amour, sans tabou. Même, je vais vous dire, mes parents auraient pu rajouter 2-3 tabous, ça nous aurait pas dérangé avec mon petit frère. Hein, c'est compliqué de grandir en ayant l'impression que tu es plus réac et plus con que tes vieux parents. Mais heureusement que eux m'en ont parlé. Puisque c'est pas à l'école que ça se passe. Moi, les seuls souvenirs que j'ai d'éducation sexuelle sont en cours d'SVT. Oui. Donc, autant le dire franchement, c'était donc avec les profs les plus chelous du monde. C'est-à-dire que s'il y a bien un professeur qui fait flipper au monde, c'est le professeur de sciences et vie de la Terre. C'est toujours un vieil homme en total velours côtelé kaki,
oh.
Eczéma purulent, haleine de grenouille disséquée. Non, c'était des êtres qui respiraient plus la naphtaline, voire l'éther, que le sexe joyeux, positif et épanoui. Et c'est vrai qu'à l'école, les rares fois où on nous parlait de cul, le vocabulaire n'était pas positif, ludique et joyeux, justement. C'était les mots prévention, agression, savoir dire non. Évidemment que c'est un pan du discours qu'il faut tenir aux enfants. Mais c'est pas que ça. La sexualité n'est pas que dangereuse ni que sale. C'est même le truc le mieux sur Terre. C'est gratuit, c'est reproductible à l'infini.
Gratuit,
c'est un peu
gratuit,
comme la marche. Ça rend heureux, ça libère.
Monde, hein.
Si c'est bien fait et qu'on le démarre pas trop tôt,
ouais, si
ni trop brusquement.
Fait, mais...
Moi, j'ai fait à peu près 8 établissements scolaires jusqu'à mon bac. Il n'y a pas un gars de l'éducation nationale qui a été capable de montrer un sexe féminin sans un bébé dedans, ni on m'a pas montré de clitoris, vu qu'ils ne sont pas dessinés dans les manuels mais scolaires. Vite. Aujourd'hui, une fille de 15 ans sur 4 ne sait pas qu'elle a un clitoris, ni que c'est son meilleur ami au monde. Donc il faut absolument changer ça, Daniel. Ne te marre pas. Il faut éduquer les enfants plutôt mieux et à l'école, à tout ça. En Islande et aux Pays-Bas, je ne sais pas si les gens baisent mieux, mais en tout cas, dès les petites classes, ils en parlent. Mais pour ça, c'est vrai qu'il va falloir aller former à l'éducation sexuelle tous les gars du personnel de l'éducation nationale. Voilà, il faut que quelqu'un se dévoue pour aller apprendre à Jean-Michel Blanquet à dessiner des vulves. Je ne sais pas si quelqu'un est chaud dans le public. Non.
Bah, il faut savoir dessiner.
Oui, c'est vrai.
Est-ce qu'une photo, ça ira ?
Une photo, peut-être. Bonne semaine, les amis.
Mais non, pas
de La bande originale, Maggie. Sur France Inter.
Vous êtes dans la bande originale de Sylvain Tesson qui est avec nous jusqu'à 12h30. Tout de suite, voici Étienne Daho avec L'Étincelle.
Soir. Perdre en silencieux parcelle dans le calme orageux. Cet éclair dangereux des roues silencieux. Au fond de nous, l'étincelle
Nous allons recevoir dans quelques instants Antoine Debecq, mais d'abord en musique avec Sylvain Tesson. La musique ne vous accompagnait absolument pas dans vos marches.
Non,
vous étiez non seulement à l'écoute de la nature, mais comme suite à votre accident, vous avez été victime d'une surdité partielle. Vous choisissiez le côté de votre marche pour entendre justement...
Oui, je suis sourd de l'oreille droite. Du coup, je voulais entendre le ressac. Alors j'ai longé le Cotentin par la façade occidentale pour que le bruit de la mer m'arrive dans la bonne oreille.
Mmh. Et vous dites c'est important d'ailleurs de
savoir se placer.
Oui, exact. Mmh. Se placer dans la vie, que ce soit dans des dîners,
voilà,
à table, ou que ce soit dans la nature, en fonction de du fleuve.
C'est le seul problème. Il faut être du bon côté de la vie.
Du ressac.
Quand il pleut.
Ah, joli. En 93, vous écoutiez ces vrais sons. Iggy Pop, Passenger.
On l'a évoqué tout à l'heure, c'est le tour du monde à vélo à cette période. Vous avez 20-21 ans. Vous partez avec un camarade, Alexandre Poussin, tous les deux, du 10 octobre 93 au 9 octobre 94.
C'est bientôt.
C'est bientôt. Et on aura le résultat du concours dans un instant. Ce qui a donné On a roulé sur la terre. Qu'est-ce qui a présidé à cette décision de partir tous les deux ensemble à cette période-là? Qu'il y avait quelque chose d'un peu... Je sais pas, mystique entre vous?
Oui, c'est avec Alexandre que je grimpais sur la Tour Eiffel, ouais, qu'on avait commencé l'escalade, et on s'est dit, maintenant, il faut qu'on voyage. Et il me semble que c'est très normal, quand on a 20 ans, on a une bicyclette, et ben on fait le tour du monde.
Alors, oui, enfin, passer de la verticalité à l'horizontalité, il y a bien un moment,
chose en fait, parce que l'escalade, ce qu'on va chercher dans l'escalade, c'est une fuite, c'est un rapport au temps, c'est quelque chose d'organique. C'est quelque chose, c'est le sexe en fait. J'ai jamais pensé à ça, mais c'est ça en fait. C'est une espèce de grand truc païen, paganique. C'est l'amour, la carte au 25e, c'est un ouvrage érotique. Ouais. C'est de la littérature.
Pour une oreille droite qui marche pas, vous avez bien entendu Agnès Hurstel.
Je me suis tourné. C'est tombé dans la bonne oreille.
Non, mais quand on a cette marche verticale, c'est évidemment l'approche, se rapprocher des dieux ou des plus puissants, alors que horizontal, c'est infini.
Oui, mais bien sûr, c'est un rapport au temps qui est tout à fait autre, parce que le tour du monde en bicyclette qu'on a fait, ça a duré un an. On traversait des territoires qui étaient des steppes semi-arides. On a même traversé le Sahara occidental. En fait, ça n'en finissait pas. Et c'est ça qui m'a donné en fait l'idée que le défilement de l'espace très lent, très monotone, très uniforme, avec la répétition des jours, c'était la seule manière finalement de construire une véritable pensée. Enfin, le peu que j'ai pu.
En 2009, vous écoutiez.
Ah, l'espagnol, j'adore. Transporteur.
Tu confonds toujours avec le portugais, c'est quand même fatigant.
Ah, pardon.
Les chœurs de l'armée rouge, avec ses adieux d'un slave, avec Dina Garipova, que vous avez découvert comment?
Garipova, c'est une chanteuse qui est très connue en Russie, et cette chanson particulière de l'armée rouge, qui s'appelle Les adieux d'un slave, c'est la famille qui fait ses adieux au soldat qui va partir sur le front, et on sait qu'on probablement on le reverra pas. Et puis alors c'est très russe du coup, parce qu'évidemment le cœur entier pleure, toute la ville lui dit adieu, le pays compte sur lui, et puis il va mourir dans les champs. Et Moi, ça a été important dans ma vie, des adieux. Je n'ai pas cessé de faire des sacs et de faire mes adieux. Je le fais toujours, d'ailleurs. À chaque fois que je rentre, j'en ai l'air un peu surpris et me demande pour combien de temps je suis là. Je ne le sais pas très bien moi-même. Je ne sais jamais d'où je reviens ni quand je repars. J'ai toujours l'impression d'être un peu en sursis, en fuite, en course. Ça a son charme.
Même aujourd'hui, vous êtes venu avec un sac à dos.
Oui, c'est vrai. Oui, parce que je rentre là d'une escapade. J'ai vraiment l'impression, moi, d'être en perpétuel mouvement. Alors ça a son charme, parce que ça donne comme ça une impression d'une vie qui... on butine comme ça en permanence dans des expériences nouvelles. Mais ça a sa stérilité aussi. Quand on se retourne derrière soi, on voit rien. On voit un grand... C'est comme un sillage de bateau. Ça se referme et il n'y a rien. Il n'y a aucune construction. Il n'y a pas de foyer,
mais il n'y
a pas de famille. Oui, il y a des livres, on peut dire ça, vous êtes aimable. Mais enfin, les livres, c'est rien, c'est même pas de la cendre, c'est du
mais
pilon,
ça, mais
c'est ce qui est destiné au pilon.
Ça restera à vie dans des bibliothèques et dans des...
Vous êtes très aimable de dire ça.
Bah si.
On ne sait jamais, en fait, si ça reste ou ça reste pas.
Oui, c'est ça, voilà, on ne sait pas, et il est probable que ça soit oublié, mais moi j'aime bien cette idée d'une espèce comme ça de traversée la plus légère possible, Dans l'intervalle de cette vie qui nous est donnée. Quoi. Ça s'appelle le voyage.
Ouais, d'autant qu'en 2009...
C'est le Goncourt, le prix Goncourt pour une vie à coucher dehors.
De la nouvelle.
De la nouvelle, absolument, une série de nouvelles. Donc là, c'est l'exercice de la fiction, parce que aussi dans votre œuvre, il faut distinguer ces exercices qui relatent vos expériences. Et ici, ce n'était pas le cas, une vie à coucher dehors. Comment vous avez accueilli cette récompense, prix Goncourt de la nouvelle? Est-ce que c'était quelque chose que vous attendiez, que vous espériez, ou alors, vous le dites dans le bouquin que la notoriété, laisser une trace, c'est pas forcément votre truc, vous préférez vous carapater, disparaître, mais là, tout d'un coup, c'est être regardé et être considéré.
Ouais. Oui, j'étais d'autant plus content que ça s'adressait aux nouvelles.
Ouais.
Et la nouvelle qui paraît-il, je m'étais bien compris pourquoi, mais
c'est
il paraît
que... C'est un genre moins noble.
Oui, on dit que c'est un genre qui n'est pas très considéré en France, mais moi je l'aime. Moi, ça ressemble à ma vie, les nouvelles.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est des petites tranches très brutales, très intenses, qui commencent et qui finissent par une chute, d'ailleurs. C'est ça, ma vie, une succession de nouvelles. Alors, j'ai été d'autant plus heureux que ce soit les nouvelles qui aient été récompensées par ce prix.
Dans votre sac à dos, il y a quoi sans discrétion? Quel est le minimum d'objets présents dans un sac à dos avant de partir?
Il y a toujours un livre et toujours un petit cahier pour
noter.
Pour prendre des notes. Parce que moi, ce qui m'intéresse dans le voyage...
Tous les matins, vous dites, hein, c'est votre exercice, vos ablutions.
C'est mon rituel.
Votre yoga.
C'est ça, c'est mes ablutions. C'est un éditeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Frébourg, qui appelle ça les ablutions du matin. On se lève et après on est dans les livres, dans l'écriture, on se rappelle de sa journée de la veille, on la note. Mmh. Et puis c'est la seule chose que je possède en fait, c'est ces petits cahiers où je note tout ce que je fais dans ma vie. Je prends des notes depuis que j'ai 20 ans. J'ai toute ma vie qui est contenue dans deux ou trois caisses. C'est la seule chose que je prendrais si jamais il y a le feu chez moi.
Et vous avez un porte-bonheur? Vous avez un objet
mystique? Non, j'ai pas
mystique,
de... Non, j'ai pas d'objet. Que je perds trop les choses. Alors j'ai rien que je traîne avec moi depuis mes 20 ans. Non, c'est tout. Non, finalement, le seul porte-bonheur que j'aurai, c'est que quand je suis tombé par terre il y a 4 ans et qu'on a dû me mettre des tas de trucs dans le corps, j'ai dû y faire partout.
De l'or même.
Et pour que je puisse fermer ma paupière... on m'a mis une feuille d'or à l'intérieur, parce que c'est la seule chose à laquelle le corps humain ne soit pas allergique. C'est l'or.
C'est chic.
Oui, c'est chic.
Nagui sait de quoi vous parlez là.
Non, regarde, j'en ai tellement. Regarde bien.
Je peux aller en Suisse en clignant de l'œil au douanier, il ne s'apercevra de rien.
Là, il ouvre la barrière tout de suite.
Antoine Debecq, merci de venir nous rejoindre. Vous êtes historien, professeur à l'École normale supérieure, grand marcheur, vous également. Est-ce qu'il y a différentes catégories, différents genres de marcheurs, ou simplement le fait de faire quelques pas vous donne ce titre de marcheur?
Sylvain Tesson l'a dit. On peut marcher un peu où on veut, et il n'y a pas forcément de hiérarchie. Ce qu'il y a dans la marche, c'est plutôt des types de paysages, des topographies, et puis des manières différentes d'en rendre compte, d'écrire sur la marche. Donc on peut marcher traverser une montagne comme on traverse une ville, on peut marcher à travers la campagne, marcher à travers un désert, on peut... aussi marcher à différents rythmes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de marches différentes qui...
Alors, il y a aussi une tradition chez les auteurs, dans la littérature française, celle justement du marcheur. Auteur,
écrivain, voilà, absolument.
C'est ça. Le paradoxe étant de coucher définitivement sur le papier et de stabiliser une idée, une pensée en l'ayant pourtant en mouvement en permanence.
Oui, je pense que le premier marcheur en ce sens, en ce sens de marcheur, de randonneur écrivain, c'est Jean-Jacques Rousseau. Ouais, je pense que c'est lui qui il y a beaucoup de marcheurs qui ont précédé Rousseau, hein, mais c'est lui qui, tout d'un coup, en fait ce qu'on pourrait appeler une nécessité littéraire, un genre littéraire, et en rend compte de façon presque existentielle.
Et c'est la référence, les rêveries du promeneur solitaire, c'est...
Ou les confessions, enfin tous les récits que Rousseau fait de ses marches, qui sont des marches... qui étaient déjà des marches entre guillemets classiques, puisque ces chemins existaient. Par exemple, une traversée des Alpes, quand il va de Turin à Genève, voilà, il fait une traversée des Alpes. Il est le premier à le coucher sur le papier, et à en faire surtout une sorte d'expérience, qui est une expérience à la fois d'écriture et puis une expérience de pensée, une expérience vitale. C'est-à-dire qu'il est le premier à dire que marcher, ça fait penser, marcher, ça fait écrire, et marcher, ça aide à vivre.
Mais alors, tous ceux qui pratiquent le... Je repense au vélo, d'ailleurs, dont Sylvain Tesson parlait tout à l'heure avec Leïla. Quand on court, quand on marche, quand on fait du vélo... On mouline aussi dans la tête. On pense.
C'est exactement ce que dit Rousseau. Voilà, je ne peux bien penser qu'en marchant. C'est-à-dire que c'est une biomécanique qui se met en place. C'est quelque chose d'ordre biologique et je dirais aussi d'ordre physique.
Parce que la pensée se met en mouvement elle aussi.
Absolument. Ouais. Regardez d'ailleurs les mots qui servent à dire cela, les mots sont les mêmes et ils sont toujours du registre de la marche, que ce soit en philosophie, et ce qui concerne la marche à pied, c'est le même vocabulaire.
On chemine, le
cheminement de la pensée, oui. Exactement, utilise le même vocabulaire que le cheminement sur
le sentier.
C'est le
sens de péripatéticien au départ.
Voilà, bien sûr.
C'est le fait de se promener en effet en pensant, en devisant ensemble. Ouais.
Est-ce que Sylvain Tesson redonne, et comme vous le faites aussi, puisque vous êtes auteur, des lettres de noblesse justement à cette forme de littérature? Est-ce qu'il y a une mode? Est-ce qu'il y a une tendance?
Sylvain Tesson s'inscrit dans cette lignée d'écrivains marcheurs, c'est absolument évident. Redonner des lettres de noblesse, elle n'a pas besoin de noblesse. Cette tradition, elle existe. Et alors, c'est vrai qu'elle est à la fois extrêmement importante, et je pense que Sylvain Tesson s'inscrit, pourrait le dire lui-même, dans sa traversée de la France à pied m'a fait par exemple penser au livre de Jacques Lacarrière qui s'appelle Chemin faisant. Lacarrière était parti d'Alsace et allé jusqu'en Corbière, c'était un autre diagonale.
Ça descend, c'est plus facile.
Voilà. Mais il y a dans Chemin faisant quelque chose qui est assez proche, je dirais moins dans l'itinéraire que dans l'écriture, en fait, dans ce à quoi ça peut servir. C'est-à-dire cette manière de fuir quelque chose et cette manière de se reconstruire par la marche et par l'écriture de la marche. Alors, il y a aujourd'hui, ça c'est indéniable, c'est une littérature, on va pas dire à la mode, parce que ce serait la décrier, mais c'est une littérature qui existe et qui existe très fort, à la fois parce qu'elle est... Elle est très lue. Il y a beaucoup de lecteurs qui sont souvent d'ailleurs des marcheurs. Il faut pas oublier que la marche est aujourd'hui ce qu'il y a de plus partagé, une des choses les plus partagées en France.
Plus gratuites surtout.
Voilà, on estime entre 12 et 15 millions de marcheurs qui pratiquent et qui suivent les chemins de grandes randonnées ou de petites randonnées. Alors pas forcément tous les jours.
Il y a pas que les marcheurs qui lisent, il y a ceux qui ont envie aussi de
s'y
mettre.
Bien sûr,
parce que ça donne envie.
C'était le cas du livre de Jean-Christophe Ruffin sur les chemins de Compostelle, puisque c'est l'un de vos camarades.
Voilà, il y a toute une série de livres qui ont été des grands succès, qui sont des livres de marche. Et ça me semble être quelque chose qui est très, voilà, très symptomatique du temps. C'est-à-dire qu'on, à la fois, on veut fuir son, et je pense que c'est absolument un sentiment légitime, ce que devient la société, et beaucoup de gens le veulent, en même temps, tout en étant contraints de vivre dedans. Donc, la marche est une façon de pouvoir le faire, même le temps d'une journée ou d'un week-end. Ouais. Et puis, en même temps, je pense ce genre montre que peut-être qu'en marchant, on est en fait au cœur de quelque chose. Et Sylvain Tesson le disait très bien avec ce qui apparaît aujourd'hui de cette France abandonnée. Hein. On est en marchant, tout en fuyant, on est au cœur de quelque chose d'absolument actuel.
Mmh. Une histoire de la marche, c'est aux éditions Perrin. Vous l'avez publié, écrit en 2016. Votre dernier livre n'a rien à voir avec la marche, mais à voir avec le point de départ, en tout cas des chemins noirs de Sylvain Tesson, puisque ça part des Alpes aussi. Vous parlez de l'histoire des crétins des Alpes.
Absolument.
Aux éditions de la librairie Vuber, qui n'est pas qu'une expression, qui est une véritable...
Oui, c'est une pathologie alpine, absolument, dont j'essaye de retracer l'histoire. C'est passionnant.
Merci beaucoup, Antoine, d'être venu à ce micro. Tout à l'heure, après les infos de midi, Tanguy Pastureau.
Bonjour.
Bonjour, Tanguy. Hey. En 2022, nous serons tranquilles dans nos voitures, à ne rien faire.
Oui, puisque le président Macron, le loup de Wall Street, pas encore pelé, a dit que 2022 serait l'année de lancement de la voiture autonome sur nos routes. La voiture autonome, c'est génial. Vous montez dedans, vous lui dites direction Saint-Tropez, puis Elbeuf ne s'arrête pas à temps, traverse la Pologne et finit sa course dans la mer Baltique. Ce sera donc l'occasion de découvrir de nouveaux horizons.
Bonjour, la bande originale, c'est reparti, suite et fin, toute équipe est là au grand complet, on souhaite vraiment que vous passiez une bonne journée, notre invité du jour est celui qui marche et qui écrit, monsieur Sylvain Tesson.
Bravo.
Sur les chemins noirs, le roman sort en poche, comme on dit, chez Folio. Plus de 250 000 exemplaires vendus lors de sa première publication. D'ailleurs, est-ce que vous attendez de toucher un autre public en le sortant en Folio? Parce que
gens plus petits.
Le prix le permet.
Ah oui, oui, bien sûr, c'est fait pour ça. C'est une invention merveilleuse, oui. Le poche. C'est fantastique. C'est vraiment, pour moi, quelque chose qui est comparable à l'imprimerie, quoi. Si tout d'un coup vous avez la littérature mondiale que vous pouvez emporter pour une somme modique et le prix d'un paquet de cigarettes et le mettre dans une poche, c'est génial.
Mais alors donc, est-ce que vous êtes pour les livres en numérique, en tablette? Là, on peut avoir une bibliothèque entière dans une tablette.
Non.
Ah bah alors.
Non, pas du tout. Non, je crois pas du tout à ça, moi.
Ça coûte moins cher et on peut transporter.
Enfin, c'est quoi, le numérique?
En termes de démocratisation.
Mais non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai tout ça. Non, mais je veux bien, moi, qu'on me fasse la propagande de ces trucs-là. C'est très bien. Je veux bien écouter.
Alors, expliquez-vous,
moi.
Expliquez-vous pourquoi c'est pas vrai. En quoi c'est pas vrai?
Parce que le déroulé vertical. Ou même les pages qu'on écarte. Enfin, non.
Ça, c'est une habitude de lecture. Moi, je parle d'accessibilité, de tarif, de démocratisation
et de poids
de la lecture.
Non, mais
la
démocratisation des livres, elle existe déjà par le poche. Ça a été une invention extraordinaire. Si je veux être plus simple et moins confus et arrêter de prendre des périphéries pour expliquer des choses, il y a quelque chose qui est indéniable, c'est que quand vous avez un livre de poche dans la main, vous avez quelque chose. Vous avez un truc qui est là. Et avec, vous ne pouvez pas caler une table avec une tablette numérique.
Ah, si, mais faut avoir les moyens.
D'où l'importance du livre. Deuxièmement, je ne veux pas croire à ces histoires de lecture augmentée. C'est une entreprise de dispersion de la pensée. Vous lisez la Chartreuse de Parme, vous cliquez sur Chartreuse pour boire un coup de Chartreuse, vous cliquez sur Parme pour vous acheter du jambon de Parme. Ça n'existe pas. Alors que ça, vous ne le lâchez pas.
Non, mais ouais. En même temps, la mauvaise foi du bon.
Oui, mais moi je trouve ça. Oui,
voilà.
Ça, oui,
là, vous avez raison. Et on n'est pas. Et je ne suis pas du tout client comme vous du numérique. Je vous provoquais un tout petit peu puisque vous parliez de légèreté, de pouvoir tout embarquer dans un sac à dos en disant on peut mettre un livre dans un sac à dos.
Mais moi je suis.
Puis
pas
ça se froisse,
spécialement...
ça note. Non,
mais Sylvain me regarde.
Il y a l'odeur.
Sylvain me regarde en me faisant genre oh, Leïla t'exagères. Non, mais c'est pas ça. Je dis simplement que ce qui me semble intéressant.
Et elle aussi aime les livres.
Oui, ce qui me semble intéressant, c'est de voir quels sont les nouveaux moyens pour accéder. Finalement, ce qui compte, c'est de lire. Non mais Leïla, moi je me moque de savoir si moyen, on lit sur
le,
un bouquin.
Il faut quand même le prix d'une tablette. Voilà,
oui, mais sauf que au départ. Si on se débrouille bien, on peut vraiment trouver ça pour pas très 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 cher. Oui, vraiment, parce qu'on est
pour
déjà
pouvoir
équipé.
Tout emporter.
Non, pas tout emporter, je dis pas ça. Je dis simplement que ça peut être aussi une façon. Parce que quand on randonne, on n'a pas besoin de caler une chaise ou une table. On peut très bien se dire qu'on a son petit appareil. Alors en effet, il faut le charger. Ça rend en effet beaucoup moins libre, j'entends. Mais je dis simplement, si ça permet à des gens de lire, moi ce qui compte, c'est finalement lire. C'est après, le moyen, le support, ça m'intéresse pas beaucoup.
Du coup, il y a quelque chose que ne vous permet pas la tablette, qui prétend finalement vous permettre d'avoir toute la Bibliothèque de France dans votre poche. Eh bien, quand vous ne pouvez pas avoir toute la bibliothèque dans votre poche, vous faites quelque chose qui s'appelle le choix, la discrimination. Qui est ce mot qui est devenu une espèce de truc absolument diabolique, alors que c'est magnifique de discriminer, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire de choisir tout à coup ce que l'on veut par amour. Je vais prendre la poésie d'Apollinaire, ou je vais prendre moi j'avais pris les Confessions d'un mangeur d'opium, parce que c'est un livre qui vous emporte dans des autres niveaux de conscience. Je n'avais que ça avec moi. Pourquoi ai-je pris ce livre-là? Parce que je savais qu'il m'emporterait très loin, que je n'avais que celui-là. J'avais pas une tablette avec toute la Bibliothèque de France. Et du coup, d'ailleurs, j'aurais été enseveli par l'impossibilité de choisir.
Et vous avez fait cadeau à quelqu'un?
Oui, je l'ai donné à quelqu'un qui vivait, qui était un ermite d'ailleurs, qui vivait sur la montagne de Lure. Alors, j'avais pas d'opium, il aurait peut-être préféré, mais j'avais Thomas de Quincey.
Mais ne demandez pas racine ou livre. De toute façon, il cherchait pas d'opium.
C'est ça, vous voulez du pain ou des livres.
Sylvain Tesson, sur les chemins noirs, ça se met donc dans une poche et pas en tablette, et c'est publié chez Folio. Ça s'achète aussi. Voici Tanguy Passereau. Tanguy, l'automobile a toujours fait partie de nos vies. Vous venez de conduire le volant, toujours la voiture.
Bien. Oui, la voiture, c'est ce moyen de transport qui peut transformer tonton Henri, 64 ans, comptable dans une PME de Saint-Lô, en psychotique, hurlant à une conductrice qui a oublié de mettre son clignotant, de prendre sa mère dans tous les sens, devant, derrière, par l'oreille droite et la narine gauche.
Non.
Mère s'arrivant au passage à être une péripatéticienne. La voiture nous rend fous, mais c'est aussi un instrument de liberté. On peut aller à Dijon, Mont-de-Marsan, mais aussi dans des villes sympas. Sans la voiture, la course-poursuite dans Bullitt, ça aurait juste été Steve McQueen et un autre mec en train de se courir après. On aurait pensé qu'il jouait à chat et ça aurait été un film pour gosses. Sans voiture, Fast and Furious, ça serait Slow and Quiet. L'histoire de deux teubés qui, pour compenser leur érection déficiente, au lieu de faire les kékés dans des caisses de beauf avec des néons bleus en dessous, se seraient enfoncés les néons dans le cul avant de grimper à patte le GR20, ce qui au moins permettrait aux mouflons de les voir arriver. Sans compter sur le fait que s'il n'y avait pas de voiture, les types qui fabriquent les sapins vanille, cannelle, chorizo à accrocher au rétro seraient au chômage, à moins qu'on se mette à en fixer sur des êtres qui en ont besoin. Bref, sans la voiture, le monde serait terne, long, mou. Et quand on est bourré le week-end, il faudrait forniquer dans les fourrés en l'absence de banquette arrière, ce que seul Noël, ma mère et deux, trois amis écolos aiment faire. C'est pourquoi, même si on sait que ça pollue, que ça tue, que c'est laid dans le paysage et que dedans on peut tomber sur Fun Radio, eh bien on continue à utiliser la voiture. Alors seul souci, quand on conduit pendant 4 heures, on fait rien d'autre. C'est un gâchis de temps, et à notre époque connectée, stressée, tarée, c'est insupportable. L'homme a donc créé la voiture autonome, le véhicule qui gère sa vie tout seul. Hein, vous lui dites titine, direction Aix-en-Provence, j'ai une grosse envie de me faire péter le bide de calisson au soleil comme une vieille tanche. Il vous répond, désolé mec, mais là je vais sur la 1, direction Cambrai, je t'ai trouvé un Formule 1. Or, on a tous envie de lâcher prise et de se laisser guider par quelqu'un de plus intelligent que nous. C'est pour ça qu'on épouse des femmes. Hein, la voiture autonome, ça va être génial. On pourra regarder des films dedans. Sur la route pour aller au boulot, on mettra 50 nuances de grès numéro 27. Celui où il pend Anastasia par les pieds pour mieux lui murmurer « Dis-le que t'es ma chose poupoule » avant de la fouetter avec sa chaussette. Et donc, on arrivera au travail super excité en évitant la fille de l'accueil pour éviter de lui proposer un plan à 140 avec tout l'open space.
Alors bon, revenons à la voiture, s'il vous plaît. La voiture autonome en France, c'est pour quand?
Eh bien, jusqu'à récemment, on savait pas trop parce qu'en France, ça traîne, faut 4 commissions, 12 rapports, 8 experts, on appelle Philippe Lelouch de Top Gear. Mais là, Macron, notre gamin suractif, a dit « Allez, on accélère les vieux. Moi, je veux le truc tout de suite. Comme ça, quand on va au Touquet avec Bribri, je pourrais regarder ses yeux 2 heures de suite et voir tout l'amour qu'elle me porte. Amour mérité, parce que je suis quand même le number one. » Et il a lancé la date de 2022. Comme ça, au hasard, hein, sans concertation. Il dit d'abord, il réfléchit ensuite, c'est comme Tex. Alors déjà, il faut changer la loi, hein, parce que pour l'instant, en cas d'accident, le conducteur est responsable.
responsable. Mais si c'est la Fiat Punto autonome qui écrase Mamie Raymonde, laquelle se sera jetée sous ses roues en apprenant la mort de Marcel Hamon. En fait, une fake news balancée par les Chinois pour vider nos EHPAD et les racheter 4 euros chaque. Et ben, le conducteur pourra dire « Eh oh, j'y suis pour rien. À ce moment-là, je regardais Plus belle la vie en replay. Le choc est survenu pile à l'instant où on s'apprêtait à savoir qui allait payer l'apéro au Mistral. Ça m'a cassé le suspense. Ça va bien. » Ensuite, il faudra créer la vieille connectée qui émettra un signal, soit un bip pour avertir la voiture autonome qu'elle traverse, soit plus probable une odeur, ce qui permettra de ne pas avoir à reprendre de zéro tout le concept de la vieille. Alors, la voiture autonome autorisée en 2022 est la voiture de niveau 4, c'est-à-dire que sur autoroute, elle gère seule. Vous lui dites « j'ai envie de faire pipi », elle répond « pas moi » et elle continue. Mais sur les autres voies, c'est vous qui êtes obligé de conduire. Tandis que la voiture regarde un porno, la coccinelle à Monte Carlo. Enfin, voilà. Et il faut que les conditions climatiques soient normales. Sinon, c'est aussi à vous de vous débrouiller. Bref, on va payer ça une blinde, elle foutra rien, c'est comme Neymar. Mais ensuite, il y aura la voiture de niveau 5, totalement autonome. Alors, elle pourra éviter les marmottes en montagne, les Yorkshire à Cannes, les Néerlandais sans slip au Cap d'Agde, et ce, quel que soit le temps. Donc c'est super. À terme, on n'aura plus besoin de nos mains, puisque tous nos objets vont œuvrer pour nous. Nos voitures nous conduiront, notre frigo commandera les courses lui-même, nos stagiaires nous feront nos cafés, ça changera pas. Si bien qu'on va pouvoir instaurer la charia, couper les mains des voleurs en leur disant « pleure pas boulou, t'as qu'à acheter la nouvelle Audi autonome à 40 000 boules », et ça fera chuter la délinquance. Voilà. Donc en attendant, moi j'ai déjà une voiture autonome, elle s'appelle l'Uber de Farid, elle m'attend, donc à plus.
Merci. Sur France Inter.
C'est bon cette nonchalance-là, hein ? Vous êtes bien dans la bande originale sur Inter. Sylvain Tesson est notre invité. Et pour passer un bon moment, voici The Specials et le titre « Vote for me ». Sylvain Tesson, vous signez sur les chemins noirs chez Folio, enfin c'est une réédition en poche de ce livre où vous parlez également de l'âge d'or, l'âge de fer, l'âge de feu, et vous dites on est aussi à l'âge du flux maintenant. Ce flux qui est dans la communication, qui est dans évidemment sur les réseaux sociaux, mais aussi ce flux de l'écoulement, de rien qui reste, de tout qui passe, tout qui doit être transporté, tout qui doit voyager très très vite d'un point à un autre.
Oui, le tout, les biens, les idées, la communication. Moi, je prêche pour ma paroisse, j'écris ce que je vis. Je suis auteur. Donc j'écris quelque chose qui autrefois s'appelait le texte, qui était la formulation de la parole. Aujourd'hui, ça s'appelle le contenu. Autrefois, moi, le contenu, c'était ce que je mettais dans mon sac à vomi lorsqu'il y avait des turbulences dans les vols d'Air France. Maintenant, c'est ça le texte, le gris autour des photos, c'est du contenu. C'est-à-dire qu'on est dans une société du tuyau, la grande plomberie globale, qui est en fait la, toute cette technologie qui permet aux choses de circuler. Et peu importe ce qu'il y aura dans les tuyaux, l'essentiel seront que... qu'il soit sous pression permanente. C'est ça que j'appelle l'âge du flux.
Je vais vous faire plaisir. À la télévision, on parle de flux quand il s'agit d'émissions qui ne sont destinées à passer qu'une seule fois, comme un jeu, un divertissement ou autre. Et quand il s'agit de choses qui durent, qui perdurent...
C'est du reflux.
C'est du stock.
Ah, du stock.
C'est du stock, vous voyez. Donc voilà, on peut
destiné le rediffuser. Destiné à l'écoulement.
Exact. Ouais, ou à rediffusion, en tout cas, ou à multi-diffusion.
Mais pour en finir avec le flux, tout ça correspond, parce que la transposition que vous venez de faire sur l'idée qu'aujourd'hui, la production culturelle ressemble à des écoulements de stock, que ce soit le texte ou les émissions de télévision, ou peut-être ce que nous sommes en train de dire à la radio, que nous croyons être des paroles et du verbe et une conversation, mais qui est en fait un échange. Aujourd'hui, on est échangé. Qu'est-ce qu'on échange? On échange des stocks, on échange du contenu. Je reviens vers vous.
Mais quand on échange des idées, on est riche d'une idée, déjà.
Oui, mais parce qu'on échange une idée. Ouais. On échange quelque chose. Vous avez, l'expression doit être transitive. On échange quelque chose. On n'échange pas comme ça. Ou alors, ce sont des choses impalpables qui n'existent pas. Enfin, tout ça pour dire que on peut faire une transposition de cet âge du flux dans le rapport que nous avons avec la production agricole et dans le rapport que les politiques ont avec leur territoire, où ils disent que finalement, ben, le territoire qui jusqu'alors était l'espace où devait se maintenir un certain nombre de choses, aujourd'hui ça doit être le grand hub des échanges commerciaux planétaires. C'est tout.
Vous conseillez aux politiques d'ailleurs de marcher. Vous dites dans le livre, il faudrait que les hommes politiques se mettent à voir.
Regardez ce que faisait Louis XI. Louis XI, il allait espionner son peuple en marchant comme ça, incognito. Il allait regarder comment les gens se... C'est exactement ça qui a été reproché.
Votre livre est sorti un an avant l'élection d'Emmanuel Macron, avec son mouvement En Marche. Donc c'est vous alors qui êtes... Le mentor d'Emmanuel Macron.
Non, je pense que c'est Victor Hugo, parce que dans les contemplations de Victor Hugo, comme chacun sait, il y a un vers, je dis, je suis en marche, je ne sais où, mais j'y vais.
Ça m'a fait un peu peur. Ouais, c'est pas complètement, oui, c'est ça, rassurant comme idée.
Non, justement.
C'est ce que fait Macron.
Je sais pas,
Est-ce que votre livre serait le même si vous deviez marcher aujourd'hui, l'écrire aujourd'hui avec ce qui se passe, notamment les Gilets jaunes?
Ben justement, non. Parce que ça serait pas le même pour une très simple raison, c'est que cette hyper-ruralité qui, dans les années 2014, commençait à laisser penser aux politiques que ça serait peut-être un sujet de problème. Aujourd'hui, ça y est, l'abcès est crevé. Donc, par définition, ces chemins noirs qui traversaient un pays inconnu n'est plus inconnu. Le problème n'est pas réglé. Mais mettons que le problème n'est plus considéré.
Vous croisez un couple de paysans qui vous accueillent, parce que ce qui est aussi remarquable, c'est le nombre de personnes qui vous accueillent,
qui ouvrent leur maison
et qui vous disent mais venez, tiens, j'ai une chambre là, installez-vous, je vous fais à manger, enfin qui sont très 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 accueillants, et vous partagez un dîner avec un couple qui regarde la télévision, qui regarde les informations, et vous dites ils ne disent rien, ils ne commentent pas, il y a pas de mouvement de rébellion de la France d'en bas, entre guillemets, comme elle a été aussi pointée du doigt par des politiques.
Ben non, parce que par définition, là, un voyage, une marche, c'est une expérience qui vous fait rencontrer des choses très disparates. C'est pour ça que j'aime le récit de voyage, parce que le récit de voyage, c'est pas de l'analyse politique qui vous assène des choses. Ça dit non, la réalité est très chatoyante, très complexe, très nuancée, et les gens ne pensent pas comme ci ou comme ça. Et il y a des gens dans la France périphérique qui sont très contents d'être oubliés. Et qui dit surtout, nous ne voulons pas du tout de rocade, de zac, de zup, de zep. C'est complexe.
Vous avez fait dire raquette à la place de rocade.
Oui.
Et là, vous le dites pour ce couple, ils appartenaient à un peuple rare, les gens qui se taisent et s'enracinent.
Ouais. Bah, c'est vrai que moi qui suis une espèce de hamster agité et bavard, je suis très admiratif des hommes qui sont capables de faire de leur enclos leur univers.
Voici un autre hamster agité et bavard, Daniel Morin.
comme Sylvain Tesson, histoire de me reconstruire, je me suis engagé sur les chemins oubliés de ma terre nourricière. Je me suis engagé sur les chemins d'un pays qui a traversé le temps, les épreuves avec ses hauts, ses bas, ses soi-disant progrès et ses cruels abandons. Tout comme Sylvain Tesson, qui a parcouru les chemins noirs de France, je me suis offert un pèlerinage sur les chemins noirs de Radio France. J'ai commencé au sous-sol.
Chemin perdu.
Sous-sol, terre oubliée, chemin noir par excellence, où aujourd'hui, comme il y a 50 ans de cela, rien n'a changé. Toujours ce bureau du sous-sol, inauguré par De Gaulle le 14 décembre 63, et transformé le 21 du même mois en bar clandestin. Rien n'a changé. En attendant son émission qui démarre à 20h, Laura Adler tient toujours, depuis décembre 63, le bistrot clandestin. Une clope dans la main droite, un verre de calva dans la gauche. Je m'attarde quelques instants aux zingues, puis pris par les vapeurs normandes de l'alcool de pomme, je m'endors la gueule sur le comptoir pour me réveiller 3 heures plus tard avec la marque Cronenbourg imprimée à l'envers sur la joue. Je reprends mon pèlerinage sur les chemins noirs de Radio France, des sentiers que l'évolution de l'espèce radiophonique publique ne veut plus emprunter, enfin, c'est ce que je crois. J'arrive par un escalier dérobé à un étage mystère. Étage mystère où se trouvent des bureaux non référencés, où s'agit d'anciens directeurs qui ne sont plus en poste depuis plus de 30 ans pour certains, plus en poste, mais toujours payé. Il y règne une ambiance folle, une ambiance années 70. Tout le monde écoute des titres français un peu hippies. On passe des cartouches dans les machines qui ne diffusent plus. Ouais, les hommes fument dans les couloirs. Ils ont les cheveux mi-longs, des pantalons pattes d'ève, des soupules acryliques. Ils portent des chaussures à talonnettes. Les filles ont toute la coupe de cheveux de Sheila, portent des mini-jupes, sont payées 60% de moins que les mecs. Pour celles qui sont payées, savent-ils seulement que leur musique n'est pas diffusée? Que dehors, il y a des adultes complètement cons qui roulent en trottinette? Non. Je ne le crois pas, vu qu'ils vivent ici, dorment ici, font des enfants ici, enfants qui ne sortiront peut-être jamais d'ici. Mon Dieu, qu'ils sont chanceux. Aller voir s'affairer dans la joie et dans l'insouciance, je suis pris d'une soudaine bouffée de joie, une joie intense qui m'épuise, alors je m'endors en écoutant Valley of Sadness, l'album des Aphrodite Child, sorti en 69. Après avoir quitté les fantômes de Radio France, je m'aventure sur les rives d'un royaume dont j'ai beaucoup entendu parler, dont on dit que les habitants sont libres dans leur tête. Je visite France Culture.
Mais t'es fou !
J'avance à pas feutrés dans un domaine où les gens ont l'air effectivement très libres. Dans les couloirs, on croise des gens nus, genre les parents Hurstel. Des gens qui chantent en espéranto. Dans un bureau, je vois des gens se battre à cause d'un philosophe. Non, je te dis que Jean-Marie Bigard est un con ! Non, c'est un génie ! Le con, c'est toi ! Bref, ça chie dans le ventilo, pour moi, ça discute. Un animateur m'emmène sur la terrasse où il fait pousser sa bœuf. Il veut me faire goûter sa production, je tire une latte et à peine expiré la fumée, je quitte mon enveloppe corporelle. Oh, purée, je comprends tout. Oui, je comprends les habitants de France Culture. Je comprends et je respecte ce combat pour la résistance à la conscience OGM du 21e siècle. Mon Dieu, que ce voyage est bon, qu'il est vivifiant. Après un trip de 8 heures, je redescends de mon nuage, je fais l'amour avec je sais plus qui, et je reprends mon bâton de pèlerin sur les chemins noirs de Radio France. J'appréhende cette nouvelle halte. Je suis sur le pas de la porte qui ouvre sur le 4e étage. Celui de France Info. Qu'est devenu France Info? À quel genre d'évolution a obéi la classe journalistique? Auront-ils su garder les valeurs essentielles qui, en plus de l'investigation, ont fait de cette radio un temple de raison, de professionnalisme et d'exemple ardent de vivre ensemble? Serais-je confronté à la déception? Angoissé, je pousse la porte et là... Oh, mon Dieu! Mais c'est génial! Tout le monde est bourré, même les gens à l'antenne! Et ça ne s'entend pas, quel sens du devoir, j'ai envie de chialer de bonheur. Mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde court en sous-vêtements et rentre dans une salle gigantesque. J'attrape un homme par le bras. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que vous allez tous comme ça à moitié à poil? C'est l'heure de la conférence de rédaction, viens! Je le suis, la dite conférence dure 8 minutes, tout le monde ressort, et là dans les couloirs, des fontaines de champagne, des torrents de bière, des lacs de Ricard, et au milieu le patron de France Info qui lève la main, tout le monde s'immobilise. Il sourit, puis se met à hurler. Oui, France Info! Tout le monde se met à danser, à hurler, à boire devant ce spectacle de résistance à l'amorosité. Je reprends confiance en l'être humain radiophonique public. Je pleure. Après m'être fait intégralement épiler à la sueur de vodka par le service des sports, je m'endors dans un placard. Une fois le calme revenu, je sors à petits pas, me dirige vers la sortie, sans pouvoir m'empêcher de jeter un œil derrière moi, pour une dernière fois, en prendre plein les pupilles, ce spectacle réjouissant de ce pays dont le chemin noir qui m'a guidé s'est transformé en chemin de lumière. Oh, décidément, je suis bien chanceux, ma foi, de travailler ici. L'ambiance festive est parfois folle. Les effluves d'amiante, comme dans les années 60. Rien n'a changé. L'évolution et le progrès n'ont pas trop abîmé l'outil radiophonique public qui n'a pas oublié les valeurs fondamentales à la bonne vie d'un média que sont les paradis artificiels au service de la qualité. Malheureusement, avant de clore mon aventure sur les chemins noirs de Radio France, je suis passé par un couloir de France Inter. Mon hasard funeste me fit croiser Augustin Trapenard en train de parler art de vivre, poppers et crustacés avec Nicolas Demorand et là... Tout s'est effondré. À demain.
Merci Daniel.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
Sur les chemins noirs, le très bon roman des ambulatoires de du Mercantour jusqu'au Cotentin, signé Sylvain Tesson. Quelle est la morale finalement? Quelle est la leçon 5 ans après que vous avez tiré de cette reconstruction?
J'ai confirmé que la marche était le meilleur moyen de se reconstituer quand on avait été très blessé physiquement. Et moralement, d'ailleurs.
Très malheureux, quand on est très malheureux, il faut marcher.
Oui, quand on est très noir, quand on est très mélancolique. Je crois que les chemins noirs, c'est une inscription sur une carte et sur un territoire, mais c'est aussi une option de vie existentielle. On peut trouver ces chemins noirs.
Merci Sylvain Tesson d'être venu à notre micro. Des excuses à présenter.
Bien sûr, désolé déjà pour Manuel Valls, dont le talent, la carrière, le brushing, le passé, l'histoire et même l'avenir ont été salis, souillés, dégueulassés, tambourinés par Sylvain Tesson. Et alors Manu, on a ce qu'on mérite, pareil. Désolé pour nos auditeurs daltoniens qui se sont un peu perdus dans ces chemins noirs des gilets jaunes où mène finalement une lumière blanche. Mais ne soyez ni vert de rage, ni rouge de honte, ça ne sert à rien. Calmez-vous, pensez à l'arc-en-ciel, ça va vous apaiser. Et désolé pour tous les parents qui nous écoutaient tranquillement avec leurs enfants qui ont entendu l'appel de Sylvain Tesson à foncer à la tour Eiffel, faire un peu de balançoire, dormir dans les bois, jouer de la cornemuse. Ça fait flipper les parents, mais merde, c'est comme ça, la vie, allez-y, foncez.
Merci Sylvain Tesson, portez-vous bien en tout cas.
Merci.
La bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain, même heure, même adresse, même radio, pour revisiter Molière et son malade imaginaire avec Aurore et Daniel Auteuil. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne avec Philippe Bertrand. Bonne journée sur Inter.